C'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, les Occidentaux peuvent-ils livrer des armes offensives à l'Ukraine ?
Oui, l'Ukraine continue à recevoir des armes des pays occidentaux pour tenter de repousser l'attaque russe de la ville de Mariupol, dont 430 000 habitants toujours sur place sont assiégés depuis plus de 40 jours. Sur place, les munitions de la défense s'épuisent. Il s'agit aussi de préparer le nouvel assaut contre le Donbass sur un terrain assez plat où les troupes russes au sol pourraient donc avancer facilement, appuyées par des bombardements aériens massifs. Contre une telle attaque, les autorités ukrainiennes préviennent que les armes légères utilisées notamment autour de Kiev ne suffiront pas et demandent à ce qu'on lui fournisse de l'artillerie lourde. Jusqu'où les pays occidentaux peuvent-ils lui en livrer sans changer eux-mêmes de statut dans cette guerre et devenir à leur tour co-belligérants ? Bonjour Jean-Pierre Molnier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS. Où en sont, pour commencer, les livraisons d'armes légères à l'Ukraine ? Quel pays continue à lui envoyer ? À quel rythme ? Parce que sur ce sujet-là, on a quand même plutôt pas mal d'informations.
Il y a un certain nombre de pays de l'OTAN qui livrent des armes à l'Ukraine. Ça se fait notamment grâce à la facilité européenne de paix de l'Union européenne, hein, qui va financer ces livraisons d'armes. Pour l'essentiel, ce sont effectivement depuis le début des armes anti-chars, hein, et des missiles de défense aérienne pour se protéger contre les avions de combat ukrainiens et les armes anti-chars contre les chars russes.
On sait à peu près qu'ont été fournis 60 000 missiles anti-chars américains, Javelin ou Milan des Français. Les Stinger aussi, ce sont ces missiles anti-aériens que les talibans avaient utilisés en Afghanistan contre les blindés russes. Vous disiez, Jean-Pierre Molnier, que l'Union européenne finance les livraisons de ces armes. Donc ces armes sont vraiment données à l'Ukraine, elles ne lui sont pas vendues.
Effectivement, elles sont prises sur les stocks des pays membres de l'Union européenne, et l'Union européenne ensuite va rembourser les États qui ont livré des armes à l'Ukraine. Il y en a pour désormais 1 milliard d'euros, et il est prévu d'augmenter encore sans doute de 500 millions d'euros le montant de ces livraisons.
La Slovaquie a promis des systèmes de défense S-300 à condition que les États-Unis les lui remplacent par des Patriotes. La Turquie fournit des drones Bayraktar fabriqués dans les usines du gendre d'Erdogan, comme le rappelait hier le canard enchaîné, ou des drones américains Switchblade. Jean-Pierre Molnier, est-ce que ce sont seulement des armes que les Ukrainiens ont déjà été formés à manier ?
Oui, ce sont des armes qui en partie d'ailleurs ont été déjà utilisées par l'armée ukrainienne, et ce sont des armes qui sont pas extrêmement difficiles à manier quand même, que ce soit les missiles anti-chars par exemple, ou les missiles anti-aériens portables Stinger. Après, ce qu'il y avait aussi, c'est qu'il y avait eu un début de formation de l'armée ukrainienne depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. Et notamment, les Américains avaient participé à cette formation de l'armée ukrainienne.
Comment se fait-il qu'on ait des informations aussi précises sur la nature et la quantité des armes, pour l'instant légères, envoyées à l'Ukraine, ou en tout cas des armes défensives, alors que d'un point de vue d'abord militaire et tactique, les pays qui livrent ces armes auraient intérêt à ce que la Russie n'en sache rien ?
Je pense qu'au tout début, il y a eu un effet de communication sur ces livraisons d'armes et un effet de communication en termes de solidarité. C'est-à-dire le message qui était passé, c'était « nous sommes solidaires vis-à-vis de l'Ukraine ». Il faut savoir que, par exemple, qu'un pays comme le Royaume-Uni avait annoncé des livraisons d'armes à l'Ukraine dès le mois de janvier, c'est-à-dire au moment où on va dire la crise commençait, on savait que les Russes avaient amassé un nombre important de soldats à la frontière ukrainienne, et il y avait une volonté de communication dès ce moment-là.
Mais une publicisation, on va dire, à outrance, qui n'est a priori pas très pertinente, en tout cas pas très stratégique.
C'est effectivement de la communication politique dans ce cas-là. On n'est pas effectivement dans l'opérationnel, dans la tactique sur le terrain. Ce que les pays voulaient montrer, c'est leur solidarité vis-à-vis de l'Ukraine. Et il y avait presque d'ailleurs une sorte de compétition pour celui qui montrerait celui qui est le plus solidaire avec les Ukrainiens, sachant qu'on était effectivement sur des armes. C'est toujours difficile de faire une qualification entre offensive et défensive.
C'est difficile de qualifier si une arme est offensive et défensive. Pourquoi ?
Une arme est une arme, si vous voulez. À partir du moment, même si vous avez une arme qu'on considère comme défensive, elle va quand même servir dans un conflit, si vous voulez. Et en étant défensive, elle va nécessairement affaiblir l'adversaire, puisqu'elle va quand même détruire des équipements de l'adversaire. On va considérer qu'elle n'est pas offensive parce qu'elle n'est pas destinée à essayer de gagner du terrain. Bon, quand vous avez un char de combat, c'est vrai qu'on peut considérer que le char de combat, il est destiné à conquérir un territoire. Et que donc l'arme est plutôt offensive que défensive. Mais en général, on ne fait pas cette distinction.
D'accord. Alors parlons peut-être d'armes lourdes. Et c'est ce que l'Ukraine réclame aujourd'hui. Il y a quelques jours, la République tchèque a promis par exemple à l'Ukraine des chars T-72. Qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'elle les a promis, pour l'instant pas livrés. Et surtout, qu'est-ce que cela entraînerait si la République tchèque fournissait ces chars ? Si le Royaume-Uni fournissait, comme il l'a promis, 120 véhicules blindés, des missiles anti-navires d'une portée de 200 km, est-ce que ça changerait la nature de la guerre, déjà militairement ? Est-ce que ça changerait surtout le statut de ces pays occidentaux qui livrent des armes ?
Je pense qu'on est dans une situation où la question est à la fois politique et militaire. Elle est d'abord militaire parce que le fait qu'on franchisse peut-être une étape et un pas est lié au fait que les Russes ont reconcentré toutes leurs forces dans la région du Donbass et qu'on s'attend à un conflit de plus haute intensité dans cette région et que nécessairement on a besoin d'un plus grand nombre d'équipements déjà pour pouvoir lutter face à l'armée russe. Et donc peut-être sans doute effectivement chars de combat ou des pièces d'artillerie également. Donc il y a véritablement déjà un objectif militaire si jamais on passe à un stade supplémentaire. Au niveau politique, je dirais que ce qui frappe, c'est qu'aujourd'hui effectivement on est en train de passer dans un stade où on ne fait pas d'annonce. On ne fait pas d'annonce de ces livraisons d'armes, si elles existent. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'a souligné le secrétaire général de l'OTAN lors de la dernière réunion ministérielle la semaine dernière. Il a dit que les États ne souhaitent pas indiquer très exactement le type d'arme qui sera vendue pour des questions de sécurité. Et là, par rapport à ce que vous disiez au début, on en revient à la fois sur des questions effectivement de classification d'informations durant une guerre. On ne souhaite pas nécessairement révéler ses capacités militaires, mais il y a également l'aspect politique, c'est-à-dire le fait de ne pas montrer qu'on est en train de franchir un pas dans la qualité, on va dire, et la quantité sans doute, des armes livrées à l'Ukraine.
Mais parce qu'est-ce qu'il y a des lignes rouges précises que les pays occidentaux franchiraient en livrant certains types d'armes, certaines armes, et passeraient ainsi à ce statut de co-belligérant ? Que dit le droit de la guerre à ce sujet, Jean-Pierre Molny ?
Le droit de la guerre, il est quand même pas très précis sur ces questions-là, et on est quand même avant tout sur des questions qui sont politiques. Et j'ai envie de dire, la ligne rouge sera franchie éventuellement le jour où Vladimir Poutine considérera que la ligne rouge est franchie. Et Vladimir Poutine considérera que la ligne rouge est franchie sans doute si il considère, un, qu'il est en train de perdre la guerre, deux, qu'il a intérêt à aller vers l'escalade pour pouvoir gagner cette guerre. Donc toute la question, c'est de savoir aujourd'hui si c'est dans l'intérêt de Vladimir Poutine.
Donc la responsabilité en revient à chaque État, ça crée beaucoup de débats à l'échelle nationale. Par exemple en Allemagne, la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, n'est pas d'accord avec le chancelier Olaf Scholz. Elle voudrait que l'Allemagne commence d'ores et déjà à envoyer des armes plus lourdes à l'Ukraine. Or, le chancelier, lui, avance des arguments à la fois techniques, le matériel n'est pas prêt, mais aussi politique. Il faut agir avec l'OTAN et pas seul. Est-ce que là-dessus, les Européens peuvent s'entendre ?
Ah, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, effectivement, je pense que pas que tous les Européens soient sur la même position. Il y a des débats internes, comme vous venez de le dire, par exemple, en Allemagne. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que pour l'instant, s'il y a des nuances ou des divergences, ces nuances et ces divergences ne sont pas rendues publiques. Et là, on voit qu'il y a une très nette volonté des Européens et des pays de l'OTAN également en général, de ne pas exprimer ces divergences et donc de montrer une unité vis-à-vis de l'agression russe en Ukraine. Et je pense que là aussi, politiquement, c'est très très important. Et je pense qu'on va vivre dans une période où effectivement, les politiques suivies par les uns et les autres ne seront pas exactement les mêmes. Et là aussi, d'une certaine manière, le secrétaire général de l'OTAN l'a reconnu lors de sa conférence de presse. Alors c'est une phrase, j'ai envie de dire, très politique, très mesurée, où il est dit que toute assistance se fera uniquement avec le consentement complet des États concernés. Ce qui est une manière de dire que les États sont un peu libres de décider de quelle manière ils aideront l'Ukraine.
Merci.
Militairement parlant.
Merci beaucoup Jean-Pierre Molny d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'IRIS. Merci.
Merci. Les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie Gacon, à 6h45.
France Culture. L'esprit d'ouverture.